Il y a toujours quelque chose en soi qu'on ne connaît pas, qui nous arrive, nous étreint, nous empoigne. C'est comme un intrus, un étranger, un voleur, une maladie, c'est selon. Alors, on cherche en soi, on regarde dedans, et il fait noir. On a peur comme un enfant, car la nuit, toujours, ça inquiète. Alors, il faut apprendre l'obscurité, la pénombre, l'aube et l'aurore. Thierry Tionyang est notre invité pour une double actualité, pour son livre qui sort ces jours-ci et qui s'intitule « Agapé, danser à l'hôpital » et pour son spectacle qui a commencé au TNP à Lyon et qui continue cette semaine à Bobigny. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Arnaud.
Un sac en plastique. Avec de la bouffe macrobiotique. Elle s'appelle Magritte. C'est une femme, pas une pipe. T'as pas de chance. Elle pense quand elle danse. Il y a plus de femmes que de Chinois. Elle pense à lui et à toi, toi, toi aussi. Elle a trop de tout. Merci de choix. T'as pas de chance. Elle pense quand elle danse. Chaud comme un lapin. Quand on est jeune et quand on n'a rien. Touche le mauvais et goûte le bien. T'as pas de chance. Elle pense quand elle danse. Ne joue pas trop le sérieux. Avant d'être con, avant d'être vieux. Avant de perdre la tête et de tomber amoureux. Elle pense quand elle danse. Elle pense quand elle danse.
Nous venons d'écouter avec beaucoup d'émotion cette magnifique chanson du regretté Arnaud. Elle pense quand elle danse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, Thierry ?
Oh, pour moi, c'est... Danser, c'est penser, comme danser, c'est marcher, comme danser, c'est soigner. Quand j'ai entendu cette chanson, je regarde les gens quelquefois marcher, je regarde les gens réfléchir à les terrasses de café, des gens penser dans une station de métro, et il y a quelque chose d'un mouvement, même presque invisible, mais qui pourrait être le début d'une danse.
Mais la danse, dans notre société, dans notre quotidien, c'est soit un moment de fête, où on se lâche, entre guillemets, pour pouvoir montrer son corps, et encore on n'est pas toujours très à l'aise avec ce corps, et on n'entre pas dans la danse, si j'ose dire, de manière naturelle, ou c'est alors voir des spectacles de danse. Vous, vous allez beaucoup plus loin dans votre pratique chorégraphique, et ce depuis longtemps. Vous adoptez finalement une méthode philosophique. Vous pensez que marcher, c'est danser, regarder, c'est danser, et qu'on a tous, à l'intérieur de nous, peut-être depuis la haute enfance, une manière de danser.
Oui, de la plus haute enfance, j'allais presque dire dans notre préhistoire, tant que nourrisson, puis en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, puis même en tant que personne âgée, je vois un corps, et dans un corps, il y a du mouvement, et ce mouvement, le plus naturel possible, peut-être le plus universel possible, et partagé de ce mouvement, il vient de la danse. Il vient de toutes les danses traditionnelles, les danses savantes, les danses improvisées, les danses de fête. Mais je vois dans tout corps la possibilité d'une danse, et quelquefois, c'est vrai, ça me bouleverse, ça me fait travailler, ça me fait réunir des tribus, des distributions incroyables avec des gens en situation de handicap, avec des virtuoses, avec des enfants, avec des adultes.
Comment avez-vous été éduqué dans votre enfance? Vous a-t-on appris à ne pas avoir honte de votre corps?
Oui, d'abord je pense que à travers mon métissage, j'ai été très à l'écoute, et mes parents, mes frères et sœurs, on a été très à l'écoute des rituels entre le Vietnam, le Sénégal et la France. Donc quelle fête, quelle cérémonie, quelle prière, quel deuil, qu'est-ce que c'est un baptême. Et à partir de ces corps-là, on a toujours été, je le dis encore aujourd'hui, on me demande encore d'où je viens. Et cette question de d'où je viens, voilà, a complètement traversé toute ma vie, tout mon travail. Mais je me raccroche à quelque chose de cette enfance qui était une enfance plutôt joyeuse, plutôt fédératrice des différences et puis des cultures partagées.
Avez-vous véritablement voulu quitter l'enfance parce que vous êtes devenu instituteur, puis ensuite psychologue clinicien, et maintenant, en ce moment même, vous continuez à travailler avec des enfants?
Oui, je crois que je suis resté du côté de l'enfance, mais c'est un peu comme que vient travailler sur Marguerite Duras. Marguerite Duras disait aussi que l'enfance n'était pas un passage, c'était vraiment un état de personne, d'une personne. Et c'est vrai que pour moi, j'ai des amis enfants, je côtoie des enfants comme je côtoie des adultes. Et l'enfance, c'est un vrai état, c'est une vraie personne pour moi.
Je vous propose d'écouter la voix d'une chorégraphe majeure avec qui vous avez travaillé, qui s'appelle Anna Teresa de Kersmacher, qui va donner sa vision de la danse. C'était en mai 2004.
La danse, c'est une façon de bouger, mais c'est aussi une façon de penser, quoi. Vous savez, je ne crois pas à la division entre l'esprit et le corps. Ces choses vont ensemble. Enfin, c'est une fois de plus un lieu commun de dire ça. Mais c'est vraiment, dans une école comme celle-ci, c'est vraiment la matière directe. De voir comment les gens, ils l'ont fait très fort avec, parce que ce sont tous des gens très jeunes comme ça, qui viennent aussi partout dans le monde, avec des cultures différentes. C'est très beau à voir comment les gens changent dans leur corps et dans leur tête. Et comment la tête change le corps, et comment le corps change la tête.
Hier soir, je voyais un spectacle de danse avec une danseuse d'Anna Teresa de Kersmacher, et effectivement, quand on la voyait danser, elle pensait, sauf que on n'entendait pas ces mots. Mais j'ai pensé justement qu'elle pensait. Parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de comprendre que la danse est un moyen d'expression en soi majeur. Parce que toute notre éducation tend finalement à évacuer cette dimension infinie que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, Thierry Tugnon.
Oui, et alors que le corps, que tout mouvement est régi par la pensée, par les émotions, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qui se nomme ou ce qui s'énonce. Et je sais, par le travail que les que simplement en nommant un bras, en travaillant à l'hôpital Avicenne par exemple, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient été soignées pour un cancer, qui était avec ce qu'on appelle le membre fantôme. Donc on avait coupé un sein, on avait coupé une partie du corps, et ces gens-là avaient encore mal à cet endroit-là. Et je voyais que en dansant la part manquante, en leur disant c'est moi qui vais danser, c'est moi qui vais être votre bras, c'est moi qui vais être vos jambes, je voyais que tout à coup quelque chose de la pensée, mais aussi donc des émotions, de la compréhension, de l'expression de la personne se remettait en marche. Et ça, c'est vraiment intéressant de se dire que quelquefois on est assis, on pense son corps, on pense un geste, et quelque chose se passe.
Encore faut-il penser que son corps existe. On vit dans une société où on efface cette dimension-là. On vit dans une modernité hyper criarde où finalement les corps sont enrégimentés. Ils doivent être tous pareils pour pouvoir plaire. Là, je parle du côté féminin, mais du côté masculin, finalement, tout autant. Qu'est-ce que vous pensez de cet enrégimentement des corps? Peut-on y échapper? Parce que danser, c'est retrouver aussi la possibilité de sa propre expression, peut-être individuelle, corporelle.
Je travaille à réunir toujours des corps qui ne sont pas le mien, qui ne ressemblent pas au mien.
Et vous vous oubliez vous-même?
Je pense pas que je m'oublie, mais je pense que pour que ma danse s'enrichisse, pour que mon expression se transforme, évolue, j'ai besoin d'un autre corps, un corps qui n'est pas simplement un corps d'un danseur, mais j'ai besoin aussi d'un corps d'un enfant, d'un corps d'une personne aveugle, d'un corps d'une personne âgée, et de chercher le mouvement.
Que voulez-vous dire? Vous avez soif de comprendre ce qui se passe avec eux?
Oui, pour inventer un langage, pour m'agrandir, pour connaître davantage aussi ce qui me bouge, ce qui m'interroge, ce qui me tient debout aussi. Et que tous les corps me bouleversent, parce que dans chaque corps, je vois de la danse. Et c'est vrai que j'ose réunir des adolescents qui justement sont tous habillés pareil, ont tous les mêmes baskets, ils veulent danser pareil. Et j'introduis tout à coup dans ce groupe deux personnes âgées, une personne malvoyante, un enfant. Et je vois que tout à coup, tous ces corps-là se délient, que tout à coup, il y a l'individualité, il y a la présence de chacune, de chacun qui prend la place, et c'est un groupe complètement hétérogène qui se met en place, et en même temps c'est du en commun.
Alors notre corps a été profondément modifié par la pandémie, tout le monde fait semblant de l'oublier aujourd'hui et peu de gens en parlent, en tout cas les médias ont lâché le terrain parce que la pandémie, en tout cas dans notre pays, est en train, je l'espère, de s'éteindre, mais je crois que dans les corps, et d'ailleurs dans ce livre qui paraît où vous restituez cette expérience bouleversante que vous avez eue au théâtre Avicenne de Bobigny, je crois que cette pandémie, elle est bien inscrite dans nos corps. Je vous propose d'écouter la voix d'un écrivain que vous connaissez, puisque vous le citez dans ce nouvel ouvrage qui paraît. Il s'appelle Pierre Ducrozet, il parle de son corps durant la pandémie, c'est une archive de septembre 2020.
Mon corps se réveille chaque jour avec la sensation que tout va comme avant, et puis il se retrouve après face à la réalité quand il descend dans la rue, et je m'y fais pas du tout. Enfin, on est totalement emmuré, cloîtré. On est déjà tellement dans nos corps constamment que là on est encore plus. Il y a déjà une lutte des corps à différents niveaux, et souvent une tentative de domination par les corps politiques de plein d'ordres. Et là, on a l'impression que ça va encore un peu plus loin aussi. Donc il y a quelque chose d'assez troublant de ce côté-là. Oui, enfin, il y a vraiment rien d'exaltant dans tout ça au niveau des corps. Nous, je crois que ce qui nous manque le plus, peut-être, c'est d'être dans une salle et de danser et d'écouter de la musique et d'avoir des corps près de soi et de boire et de sentir que ces corps autour de soi forment. Je crois que c'est vraiment ce qui, en fait, dans le fond, nous manque le plus en ce moment. Par ailleurs, ce qui s'est passé est hyper intéressant à d'autres égards. Comment le château de sable s'est effondré en 15 jours, c'est fascinant. Ça ouvre vraiment une brèche presque métaphysique dans cette espèce de maison, d'installation qu'on s'est construite et qu'on pense immortelle, qui en fait n'est rien du tout. Et là, tout le monde l'a vu, on le sait, on le sent depuis longtemps, mais là, ça nous a sauté à la gueule. Et donc ça, c'est très important. Ça ouvre une nouvelle brèche après la crise écologique, qui est toujours là, bien sûr, mais après une suite de crises, celle-là, elle achève vraiment de mettre à bas toute l'installation. Et vraiment, si on saisit pas cette opportunité pour reconstruire d'une autre manière, ce serait vraiment terrible et ce serait une faute historique grave. Donc, on en est là et ça peut être exaltant aussi.
Nous venons d'entendre la voix de Pierre Ducrozet. C'était en septembre 2020. Nous sommes au printemps 2022. Est-ce qu'on n'a pas fait semblant d'oublier les conséquences de cette pandémie dans notre propre corps et quelles sont les cicatrices? Qu'avez-vous observé? Parce que je sais, Thierry Tchoignan, que malgré la pandémie, malgré les interdictions de sortir de chez soi, vous avez eu la possibilité, peut-être par Zoom d'ailleurs, le Zoom a beaucoup transformé le rapport au corps de l'autre avec un grand A, de suivre des projets artistiques. Nos corps ont-ils changé? Et pourquoi nous n'en parlons pas?
Je sais pas pourquoi on n'en parle pas. C'est vrai que ça me préoccupe beaucoup parce que à la sortie des différents confinements, la première chose que j'ai voulu, et depuis septembre et jusqu'à ce printemps-là, c'était de travailler avec des enfants et des adolescents. J'avais très très envie. Je venais de traverser un an avant la pandémie tout ce temps de résidence à l'hôpital Avicenne auprès des patients, et la pandémie nous avait complètement isolés de tout. J'avais du mal à aller travailler à l'hôpital. J'avais du mal à danser, à danser moi-même. Et c'est vrai que j'ai été dans mon propre corps, j'ai senti, mais je le vois encore aujourd'hui, comment, voilà, suite à cette accalmie, on a encore des séquelles. On a tous mis un peu des rustines, des sparadraps, et là, tout est en train de ressaigner, c'est très bouleversant parce que je me suis dit, mais il faut que j'aille vers l'enfance, j'aille vers l'adolescence, et que de réunir cette tribu de 20 enfants à Villeurbanne, de 20 enfants à Bobigny, et de leur poser des questions, sur l'état du monde, sur qu'est-ce qui va, à quoi ils rêvent, comment on se donne la main, comment on se touche, comment on se porte. Et en convoquant Marguerite Duras et cette interview merveilleuse de 1967 où elle converse à la radio avec des enfants, et je m'étais rendu compte que les enfants se préoccupaient de comment on allait vivre dans l'espace, comment on allait vivre sur les autres planètes, et que mes enfants, mes adolescents d'aujourd'hui, en 2022, me disaient, mais comment on continue à vivre sur la Terre? Et ça m'a bouleversé, parce que tout à coup, je me suis dit, voilà, on est tout à coup, des années après, des décennies après, on pensait comment on allait vivre dans l'espace, sur les planètes, dans la Lune. Et là, on ne sait plus comment on vit sur la Terre et comment on va faire.
Mais c'est les conséquences à l'intérieur d'eux-mêmes de la dégradation bioclimatique et de la réalité de ce monde qu'on leur offre comme avenir, un monde où il devient très difficile de respirer.
Complètement, de respirer, donc de bouger et de danser.
Alors vous faites allusion à ce merveilleux entretien de Marguerite Duras. Le service public avait proposé à Marguerite Duras de faire des émissions régulières en écoutant les enfants. C'est d'ailleurs une très bonne leçon à tirer aujourd'hui nous-mêmes. Cette émission s'intitulait « Comme il vous plaira ». Je vous propose d'en écouter un extrait où Marguerite a l'art de savoir écouter les enfants.
Et maintenant nous allons écouter quelques enfants, puisque Marguerite Duras a bien voulu les interviewer pour nous. Écoutons ces enfants.
Moi je m'appelle François, j'ai 6 ans. Puis je m'appelle François Fort.
Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie?
Le chocolat ou le petit beurre. Les avions aussi. J'en prends toujours un pour aller dans mon pays.
Quel est-il ton pays?
C'est l'Argentine. Quand je serai grand, peut-être que je chanterai ou je ferai l'acrobatiste en même temps.
Eh bien, quand tu seras grand, les autos, elles marcheront comment?
Comment?
Elles vont voler?
Non, elles ne vont pas voler. Le grand vent qui passe dans les voitures et qui passe aussi dans notre peau. C'est très, très, un vent très glacial. Elle peut voler les voitures. Parce que c'est un vent très, 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 très froid.
Ils
volent beaucoup. Un vent, ça. Terrible.
Il n'y a que le vent qui peut soulever les voitures?
Ah non. Il y a les crochets qui peuvent soulever les voitures.
Et l'énergie atomique? T'en as entendu parler? L'énergie atomique?
Je sais pas si... Comment je sais que les hommes peuvent tirer? Il y a d'abord à la mitraillette. Il y a la mitraillette d'abord. Oui. Qui a un rouleau de pétard comme ça. Puis on tire comme ça. Puis après, il y a le pistolet qui fait pan, le fusil qui fait aussi pan, et la bombe qui fait. Et puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a que les grenades qui fait aussi. C'est tout.
Incroyable, non?
Oui, incroyable. Incroyable. Ce qui est très, très étonnant, c'est déjà, on parle de la guerre, on parle des armes, cette fascination comme ça des armes chez l'enfant. Ce que je me rends compte avec des enfants d'aujourd'hui, surtout en ce moment, ils parlent plutôt de paix. Ils sont vraiment, vraiment dans le questionnement de la paix, donc la famille, l'étranger, le vœu de partir ailleurs, d'avoir plusieurs métiers. Il y a une conscience et un sens de responsabilité des uns, des grands envers les plus jeunes, de penser à leurs parents, avec toutes les histoires qu'ils ont entendues sur les EHPAD, sur les maisons de retraite. Donc ils disent aussi, mais non, moi je veux habiter avec ma grand-mère. Et ça, de différents enfants, que ce soit à Villeurbanne ou à Bobigny, ils ont dans différentes cultures, différentes couches de population. Et il y a vraiment quelque chose du soin, de prendre soin, qui est très fort, prendre soin de la planète, prendre soin de son camarade, prendre soin de sa famille. Et je pense que ce qu'on vient de traverser là, toutes ces dernières années, reflète vraiment cette chose où l'enfance a envie de prendre soin de nous, du monde.
Alors, sur le plateau du TNP de Villeurbanne, et puis cette semaine, à partir de demain, vous serez sur le plateau grâce à l'écoute que vous avez pu pratiquer de nombreux enfants que vous avez, entre guillemets, orchestrés pour en faire ce qu'on appelle un spectacle. Plutôt un moment de vie, un moment d'émotion, un moment de rassemblement. Ces enfants, ils sont sur le plateau, ils parlent, mais aussi ils dansent. On en revient à Arnaud. Penser, c'est danser. Danser, c'est aussi penser.
Oui, oui, danser, c'est aussi penser.
Il y a une totale réciprocité?
Oui, il y a une totale réciprocité. Et puis, par
exemple. Porosité, même, si j'ose dire.
Même, et puis même, certains enfants, donc certains sont des primo-arrivants, donc ne parlent pas très bien français, et par le travail autour des textes de Marguerite Duras, et surtout par le travail du corps, la parole s'est déliée, l'apprentissage a été plus facile de chercher à dire une phrase dans l'espace, de le dire en bougeant, que plutôt d'être assis à une table. Et c'était très, très intéressant de voir que le corps, et souvent je l'ai vu à l'hôpital aussi, quand c'était des personnes étrangères que j'allais visiter, avec qui je dansais dans les chambres, qui parlaient pas français, simplement en écoutant une chanson de leur pays, en regardant des images de danse, de peinture, en leur donnant la main, en quelquefois en les portant sur mon dos pour marcher dans les couloirs de l'hôpital. Ce corps à corps, les corps à corps permettaient tout à coup que la parole tout à coup ose, surtout à l'hôpital ou même au théâtre, je vois que ce sont des lieux comme ça sacrés, et qu'il fallait vraiment pousser les portes, faire entrer ces gens qui se sentaient pas légitime, en disant, même les enfants disaient, mais on sait pas, c'est pas à nous, on n'ose pas, ils habitent en face, ils n'osent pas rentrer dans le théâtre. Et donc, pour moi, c'était vraiment important que ce soit ces enfants-là d'aujourd'hui aussi, qui ont été empêchés d'aller à l'école, d'aller faire du sport, d'aller au cinéma, qu'ils puissent entrer dans le théâtre toute la journée et travailler, danser, voir des spectacles. Et comme à l'hôpital, d'amener tout à coup une chanson, d'amener une danse. Et pendant une chimiothérapie, je voyais bien que quelquefois, pendant 3 heures, quand j'ai resté 3 heures avec un patient ou une patiente, mais tout à coup, le traitement, il était plus facile. Au lieu de jouer à des jeux sur leur téléphone, tout à coup, on écoutait de la musique, on regardait des livres, on parlait, je dansais pour eux, ils me critiquaient, ils me disaient ça va plus vite. Enfin, ils étaient eux-mêmes presque chorégraphes de mon mouvement et c'était très, très, très fort.
Alors, je crois que dans votre pratique artistique et finalement de soins, parce que les deux sont consubstantiellement liés, il y a aussi quelque chose que vous avez maîtrisé depuis pas mal de temps, grâce aux expériences que vous avez traversées, c'est que vous avez le temps, Thierry. Vous prenez le temps, votre temps est infini, vous regardez pas votre montre, vous êtes là, et l'intensité de votre présence, vous l'offrez à votre interlocutrice ou à votre interlocuteur. Comment articulez-vous cette absence de maîtrise du temps, qui est une donnée essentielle de votre pratique, avec ce qui peut se passer? Vous n'attendez rien. Vous ne savez pas ce qui va se passer.
Non, je n'attends rien. Et je sais que le corps, c'est du présent. Et que ce présent, je travaille sur le présent des présences. Et je laisse venir. Je laisse venir le moindre geste, le moindre mouvement. Je laisse venir le silence. J'ai pas peur de l'attente. J'ai pas peur du soi-disant vide, puisque c'est jamais vide, c'est jamais rien. Et que de passer 10 minutes avec quelqu'un qui tout à coup s'endort, il m'est arrivé de rester dans la chambre jusqu'à ce que la personne se réveille et d'être là, de lire, alors que c'est pas du tout quelqu'un que je connaissais. Et puis, à son réveil, de voir dans leur regard que tout à coup, ben ouais, ils étaient heureux de voir que j'étais encore là. Et puis, hop, on continuait la conversation, on réécoutait une chanson. Et ce temps-là est un temps est du mouvement. Et pour moi, il me constitue, il me reconstitue, il me renforce. Et c'est vrai que j'ai la sensation d'un temps infini, qu'il n'y a pas de heure, que je ne suis jamais en retard, je ne suis jamais en avance. Enfin, je traverse le temps et que c'est pas quelque chose qui m'oppresse, voilà, je sais que par exemple le spectacle à Bobigny n'est pas encore fini, que le groupe est encore fragile, mais je ne suis pas du tout, j'accueille tout ce qui arrive et à partir de ce présent-là, je vis, je danse et je partage.
J'avance à rebours, à tâtons, comme dans la nuit. Souvent à l'hôpital, je ne sais plus très bien quelle heure il est. J'accueille des souvenirs âpres et d'autres plus légers qui ne sont pas les miens et qui pourtant me ressemblent. Je recueille des sourires et des larmes avant de partir, de dire au revoir, à demain ou à bientôt. Je danse pour chacune, chacun. Quelquefois, j'enregistre nos moments, nos paroles échangées, même quand elles sont dans une autre langue. Je fais écouter ce que nous avons dit, je mets le casque sur les oreilles du patient et je danse. La musique de la danse, ce sont leurs mots, leurs propres paroles, leurs récits, quelquefois un air ou une chanson fredonnée dans leur langue d'origine. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Thierry Chunyang, Jane Birkin.
Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme en ralenti et les rires ont un écho des plages de l'oubli. Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps. Trop faible pour nager au contre-courant, la vie envoie des vagues imprévues de mélancolie. Bafoué, baloté, te voilà blotti comme les marins qui repèrent dans une tempête l'abri. Je bénis les dieux en qui je ne croyais plus de m'avoir donné un enfant à garder. De toi me frappe en sommeil ce soir. Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme on ralentit et les rires ont un écho d'une plage. Caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps.
Penser, c'est quand même, pour moi, il me semble être à l'écoute de la vie. Alors, c'est pas ce qui se passe en soi, être à l'écoute de la vie, c'est tellement autre chose que penser à sa propre santé. Mais je pense qu'une santé fragile favorise ce genre d'écoute. Lorsque je disais ces grands auteurs comme Lawrence ou Spinoza, d'une certaine manière, ils ont vu quelque chose de trop grand, de si grand que c'était trop pour eux. C'est vrai que on ne peut pas penser si on n'est pas déjà dans un domaine qui excède un peu vos forces, c'est-à-dire qui vous rend fragile. Bon, ben, moi j'ai toujours eu en effet une santé un peu fragile, et là, alors ça s'est affirmé à partir du moment où j'avais été tuberculeux, là, j'acquérais tous les droits d'une santé fragile.
Nous venons d'entendre Jane Birkin et puis la voix de Gilles Deleuze tirée de l'abécédaire de Claire Parnet en 95 au mot M comme maladie. On sait que Gilles Deleuze a décidé de terminer sa vie volontairement parce que justement il n'arrivait plus à respirer. Comment sait-on qu'on peut encore nager et ou alors comment sort-on de cette faiblesse dont vient de parler Jane Birkin, trop faible pour nager? Est-ce que, à l'intérieur de votre pratique chorégraphique, mais aussi existentielle, Thierry Tuenyang, vous avez compris qu'il valait mieux accepter notre faiblesse et notre vulnérabilité, ce mot-là, vous l'employez beaucoup dans cet ouvrage qui paraît ces jours-ci, ou alors est-ce qu'il faut, comme nous le demande notre société, lutter contre?
Je pense que la vulnérabilité est vraiment un soulèvement. Pour moi, c'est un soulèvement. C'est vraiment quelque chose qui nous soulève, qui soulève les corps, qui soulève les paupières, qui soulève un bras. Et en ayant vu la vulnérabilité dans les corps, mais que ça pouvait être un danseur qui vient de se blesser, un danseur fatigué après plusieurs heures de répétition, un comédien cherchant à se souvenir, à ne pas réussir à prendre un texte. Cette vulnérabilité, cette fragilité de l'âge, je voyais quelque chose de beau, de juste, de vivant, et qu'à partir de cet état, de ce souffle, de ce mouvement-là, quelque chose de l'art arrivait, quelque chose de la vérité arrivait. Je me souviens d'avoir, en travaillant avec Patrice Chéreau, de voir comment il accueillait ces moments-là où l'acteur doutait, où l'acteur était épuisé, fatigué de chercher, et comment dans ce moment, ce trou, ce doute, quelque chose se révélait, quelque chose se remettait droit, se remettait au travail. Et je pense que, et justement en voyant les soignants, en voyant les enfants, les adolescents, que leur vulnérabilité, elles font partie d'eux, et que le soignant, il est aussi vulnérable que le patient, et que c'est ce va-et-vient entre ce qui souffle, ses souffles, et ce qui se soulève, qui redonne, qui parle du vivant. Et la vulnérabilité, pour moi, elle est tout sauf de la mort, de la faiblesse, elle est au contraire vraiment une pulsion de vie pour moi.
Valeria Bruni Tedeschi avait fait un film à partir de votre expérience de danseur et de chorégraphe à l'intérieur d'un EHPAD. Aujourd'hui sort un livre important que vous signez vous-même, qui s'intitule Agapé, danser à l'hôpital. C'est le fruit donc d'une expérience et d'une proposition que vous avez acceptée de travailler donc à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et vous dites, ce que la maladie ne peut pas toucher, ce sont les mots. Qu'était-il écrit sur votre blouse blanche quand vous alliez tous les jours à l'hôpital? Et comment arriviez-vous à faire parler celles et ceux qui ne voulaient plus parler?
Donc sur ma blouse blanche, il y avait mon nom et puis mon métier, danseur chorégraphe. Donc je n'étais pas un hématologue ou un psychologue. Mais j'étais bien danseur chorégraphe. Quelquefois, les gens ne s'arrêtaient qu'à ma blouse blanche et me posaient des questions de chercher un service, d'aider à aller d'un endroit à l'autre. Chose que je faisais tout en étant quelquefois assez perdu, aussi perdu qu'eux. Et à d'autres moments où on me demandait, mais qu'est-ce que fait un danseur dans un hôpital? Et donc, je prenais le temps de leur expliquer que je cherchais justement comment les corps bougent, comment les corps errent, comment les corps attendent, comment les corps écoutent, tremblent dans ce monde, dans cette ville-monde qu'est l'hôpital. Et qu'à partir de là, je voulais en faire de la danse. Et c'est vrai qu'au départ, le projet était de m'imprégner au maximum et puis de faire des rencontres avec des soignants et des patients, de les amener dans un studio de danse, de danser avec eux. Et quand la pandémie est arrivée, donc j'ai juste eu l'autorisation quelquefois d'aller dans une chambre, dans des chambres stériles, donc habillées comme un cosmonaute dans chacune des chambres, et de mettre la danse dans une chambre, dans un box, dans un couloir, et amener la danse à l'intérieur de l'hôpital au lieu d'amener le malade au dehors. Et c'est comme ça que le projet est arrivé, que le projet s'est... J'ai quand même passé deux ans, il y a eu des moments où j'étais en psychiatrie, où j'ai travaillé avec des enfants autistes, puis en hématologie, en oncologie, où j'ai suivi donc une dizaine de personnes dont je fais un peu le portrait dans ce livre. Je me suis dit, je peux pas danser avec eux, je les vois pas, et donc j'ai osé prendre un cahier, sortir pendant le premier confinement, monter sur le toit de mon immeuble en plein soleil, et puis tracer, me souvenir d'eux, écrire ce qui m'était arrivé grâce à eux.
Alors, ce qui vous est arrivé grâce à eux, c'est peut-être la perception de leur propre intimité, de leur rapport au temps, bien sûr de leur rapport au corps, mais aussi de leur rapport à la mort et à la vie. Vous les avez écoutés, ils sont de différentes origines, de différentes langues. Même si vous ne connaissiez pas la langue, vous arriviez à déclencher une sorte de dynamisme, d'élan de vie. Et quelquefois, dans ce livre, il y a des moments absolument bouleversants parce qu'ils vous apostrophent les malades. Ils vous apostrophent en vous disant « comment je fais, moi ? Comment je fais ?» Je vais citer une des personnes qui vous dit « Je ne sais plus quelle faille restaurer, à quel rêve m'accrocher. J'ai ouvert les yeux sur un autre monde, il n'y a pas d'opération possible. L'évolution est implacable, pas de progression, pas de guérison. Alors je fais quoi ? J'attends quoi ? J'attends quoi ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Les patients, puisqu'on les appelle comme ça. Ouais. Mais les patients sont impatients.
Les patients sont impatients. Complètement. Les patients sont impatients. J'en ai rencontré qui étaient aussi très, très patients, qui étaient aussi je me souviens d'un monsieur Sri Lankais, une qualité d'écoute à lui-même, aux autres, toujours le sourire et recevant chaque traitement, chaque présence, chaque interlocuteur soignant de façon très, très, très belle, très généreuse. Des gens en colère, bien sûr, des gens en colère, des gens perdus, des gens qui ne savent plus comment continuer.
Si ça vaut la peine de continuer à vivre malgré les traitements.
Complètement. Donc c'est de trouver la bonne écoute. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand Marguerite Duras écoutait les enfants, comment elle était au bon endroit pour les écouter. Quand il n'y a pas de jugement, quand il n'y a pas quand elle prend pas la place. Moi, j'ai pas essayé de prendre la place. Je sais pas. Je suis pas thérapeute. Je suis pas guérisseur. Donc j'entends cette peine. J'entends cette colère et je l'accueille. Je l'accueille et puis je l'accueille dans un silence. Je l'accueille en donnant la main. Je l'accueille en les laissant et en revenant un peu plus tard, en leur laissant sur les lits un livre, et une photo, une image, et puis je reviens, et puis on en parle. Et je sais que cette fragilité, que cette colère, que cette impuissance, elle est réelle, et que je la combats pas, j'essaye pas de faire semblant, d'essayer de trouver des choses qui pourraient, je l'entends et je crois que c'est un peu comme quand je vais voir mon analyste, c'est pareil, je laisse quelque chose là et ça se tient, ça grandit, ça se déplie malgré moi, ça mûrit, ça pourrit, ça mais il y a quelque chose qui se dépose et dans ce dépôt il y a de la place. Il y a de la place pour autre chose parce qu'on a déposé quelque chose, on a vidé son sac, on a posé quelque chose au sol, on l'a jeté par la fenêtre et tout à coup quelque chose est ouvert, quelque chose. Il y a de la place pour autre chose et c'est à moi tout à coup de mettre un geste, de mettre une chanson, un rire, un sourire et puis une danse.
Comment la poésie vous offre-t-elle un mode de réflexion et aussi une manière de consolation ? Parce que ce livre est tissé aussi avec des extraits de poètes. Il y a Paul Celan, il y a René Char et bien d'autres.
Oui, il y a des invités. Je pense que pendant la pandémie aussi, je suis replongé dans ma bibliothèque et puis c'était eux qui venaient me visiter. C'était moi le patient et c'est ces auteurs qui venaient tout à coup me réconcilier, me redonner de la force et voilà. Il y a Annie Ernaux, il y a Paul Celan, il y a dit Pierre Ducrozet. Donc il y a des gens très très différents. Comme il y a des chansons, comme il y a des images de danse. On parlait d'Anne-Thérèse Kessmecker, voilà. Et puis Jane Birkin, Arnaud. Enfin, tout mon panthéon, tous ceux qui me traversent, tous ceux qui sont là et qui m'aident aussi à transmettre la danse, et parce que on disait que danser c'est penser, mais danser c'est aussi écrire, et danser c'est écrire de la poésie.
Abandon, pesanteur sont des mots qui reviennent très souvent à l'intérieur de ce texte issu de votre pratique à l'hôpital. Dans un hôpital, il y a des couloirs et il y a des chambres. Dans les chambres, ce sont les patients, ils sont plutôt seuls. Et dans les couloirs, il y a de temps en temps des couples. L'un vient voir l'autre. Et vous êtes toujours aussi bien dans la chambre que dans les couloirs, à l'écoute des corps ensemble. Est-ce que la danse, c'est aussi, comme vous le dites dans les premières pages de Agapé, c'est la possibilité aussi de rallumer, de revivifier la possibilité de la rencontre?
Oui, danser, c'est rencontrer. Danser, c'est... je dis souvent que j'ai plus de danse aussi quand je danse seul, quand je travaille. Donc là, quelquefois, je rentrais de l'hôpital et j'allais à la MC 93 où il y avait un studio. Et pendant une heure, je dansais. Quelquefois, je m'allongeais juste au sol et je repensais à ce qui s'était passé. Mais danser, pour moi, c'est toujours la rencontre. C'est la rencontre avec un espace, avec un souvenir, avec un absent, avec... oui, je j'imagine pas la danse seule. Pour moi, danser, c'est toujours avec un autre, avec des autres, et qu'il y a, on parlait de Deleuze tout à l'heure, il y a quelque chose vraiment aussi de cette communauté tout le temps, de au travail, de cette danser, c'est mettre en commun. Voilà, danser, c'est mettre en commun. Pour moi, c'est mettre en commun du corps, mettre en commun des gestes, de la danse, de la pensée, de la poésie, de la vie, de la joie aussi.
Et danser, c'est savoir aussi regarder à l'intérieur de soi, avoir ce courage-là?
Oui, je pense que danser m'a permis d'avoir du courage pour regarder en moi, du courage pour regarder en les autres. Et de laisser cet entre, ce va-et-vient, se glisser entre le monde et moi pour le danser.
Le présent, c'est Bobigny avec ce spectacle qui commence cette semaine. Mais le futur proche, c'est Avignon avec Thiago Rodriguez, avec qui vous allez travailler pour Iphigénie. S'il y a bien un texte qu'on a appris par cœur à l'école, c'est celui de Racine. Quel apport allez-vous faire par rapport à Racine? Allez-vous oxygéner Racine? Allez-vous revivifier Racine? Allez-vous agrandir Racine? Ou allez-vous nous faire comprendre Racine autrement?
Donc déjà, c'est vrai que c'est le texte écrit de par Thiago. La mise en scène sera de Anne Théron. Et il y a une dizaine d'acteurs aussi de différentes générations. Et Anne Théron m'a demandé de travailler avec tous ces acteurs sur les corps. Puisque dans le texte de Thiago, ce qui était assez beau, c'est que cette Iphigénie, elle décide de ne pas refaire comme toutes les autres Iphigénies. Donc voilà, donc il y a
c'est une bonne nouvelle.
Voilà, donc c'est une révolte, donc c'est un soulèvement et contre sa mère, contre son père, contre la communauté, cette jeune femme va trouver une autre solution pour ne pas répéter justement tous nos archétypes, de pas répéter tout ce qu'on ne sait pas toujours transformer et on le voit avec la pandémie, avec la guerre. Voilà, toutes ces répétitions terribles et le fait de plonger dans cette Iphigénie me fait énormément de bien parce que tout à coup il y a ce soulèvement comme il y a avec les enfants, avec Marguerite Duras. Voilà, je crois que je me souviens d'avoir en 2016 travaillé déjà sur un projet avec des enfants sur la chute, sur l'abandon suite aux attentats et là je sens que cette année il y a quelque chose qui me soulève. Et dans ce soulèvement, il y a aussi beaucoup de joie.
Merci infiniment, Thierry Tionyang. Il y a donc deux actualités. Cette semaine, À Bobigny, votre spectacle qui s'intitule « C'est tout » à partir de Marguerite Duras et avec cette troupe d'enfants. Et puis ce livre tout à fait passionnant qu'on a envie d'offrir dès qu'on l'a terminé, tellement il est profond et en même temps délicat. Il s'intitule « Agapé, danser à l'hôpital » qui sort, je crois, aujourd'hui même aux éditions RS.
As I die in the flames, as I say.